Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur nos ondes de proximité pour une nouvelle page d'histoire locale. Bonjour, bonjour Michel.
Bonjour Martine et bonjour à tous. Nous sommes en février, en principe le mois le plus rigoureux de l'année. Nos anciens disaient toujours « Tant que février n'est pas passé, l'hiver n'est pas fini ».
Mais que se passe-t-il en février ?
Les eaux stagnantes gèlent et produisent de la glace que l'on peut récolter. Nous en parlons après avoir écouté l'hiver de Vivaldi.
Nous abordons une coutume du temps passé, la récolte de la glace. Et pourquoi récolter de la glace ?
Pour l'utiliser pendant l'été.
Mais l'hiver passé, la glace fond rapidement. Comment la conserve-t-on ? En construisant des glacières dans le sol ?
Tout à fait, mais avec des aménagements que l'homme a améliorés au fil du temps.
Et depuis quand ? Trouve-t-on des traces dans les archives ?
Les archives publiques conservent peu de documents de particuliers, à part les actes notariaux ou bien sur des plans.
Cela ne fait pas tout à fait notre affaire. À moins que les villes ne se soient mises à construire des glacières. Est-ce le cas à Bourg ?
Eh oui, la ville souhaite fournir de la glace à l'Hôtel-Dieu pour les soins aux malades, en particulier comme antalgique avec les vessies de glace, et pour faire baisser la fièvre. Limitons-nous à la conservation de la glace.
Alors, comment s'y prend-on ? On creuse des réservoirs dans le sol, mais cela ne suffit sans doute pas.
Au départ, ce ne sont que de simples cavités où la glace est entassée avec de la paille. Avec le temps, les méthodes évoluent et on construit des glacières avec des parois en briques ou en pierre et l'isolation est complétée par de la paille. Au fond, des branchages sont déposés et la glace est tassée avec beaucoup de soin pour éviter les bulles d'air. Les couches de glace et de paille sont alternées. Lorsque la récolte est terminée, l'espace restant est rempli de paille et l'ensemble est soigneusement fermé avec un couvercle.
Souvent, les glacières sont semi-enterrées et la partie supérieure est recouverte par un dôme réalisé avec la terre extraite. La récolte se fait dès novembre et la glace n'est utilisée qu'à partir de mai. Une bonne glacière perd moins d'un quart de son volume. Au fond, les branchages facilitent l'évacuation de l'eau de fonte évacuée par un drain.
La récolte de la glace se fait de nuit, à la lueur des bougies, pour profiter des heures les plus froides. Elle est toujours précédée par un nettoyage complet. Cette récolte se fait dans les étangs ou étendues d'eau nombreux à la périphérie de Bourg.
Une glacière est située à proximité des Quinconces et de l'allée du Mail. Une autre existe près du bastion de Bourgneuf, c'est-à-dire sur le haut de l'actuelle rue de la République. Peu avant la Révolution, l'érudit Varenne de Fenille achète une partie de ce quartier pour le réaménager. Mais seules les classes aisées peuvent disposer d'une glacière.
Nous allons nous intéresser à la première. La ville l'achète en 1726 à un particulier, M. de Montplaisant, qui lui-même l'avait acquise en 1702. Thierry, notre collègue des chroniques de Bresse, a retrouvé un mémoire de 1729 qui évoque le remplissage de cette glacière.
Après 2 jours et demi de nettoyage, la glace est livrée par 25 hommes pendant 52 jours de charroi en 1729. Le texte ne donne pas d'autres détails, c'est bien dommage. On sait que cette glacière est utilisée régulièrement par la suite, car les archives évoquent des réparations à effectuer. Elle est ensuite abandonnée pendant la période de la Révolution et même vendue.
La ville le regrette rapidement et dès 1803, elle lance un nouveau projet qui aboutit en 1804. Un accord est trouvé avec un monsieur Carabas, qui s'engage à construire une glacière et un bâtiment d'habitation sur un terrain communal, toujours à proximité des Quinconces.
Il en aura la jouissance, mais il devra livrer 200 kilos de glace chaque année à l'hôpital et au bout de 30 années, la ville récupérera cet établissement. 30 années, c'est long et il se passe des événements fâcheux ou de fâcheux événements.
En 1814 et 1815, la ville est occupée à deux reprises par les Autrichiens qui détériorent divers bâtiments dans la ville, dont la glacière que M. Carabas doit réparer.
Mais M. Carabas décède en janvier 1821 et sa fille ne peut assumer seule la gestion de la glacière. Elle sollicite alors la ville pour une cession anticipée de l'établissement contre une rente viagère. L'arrangement à l'amiable est conclu et validé en décembre 1823.
La ville pense qu'une glacière lui est utile et la location est réglée par un bail. Comme les nouveaux locataires sont des cafetiers limonadiers, l'établissement diversifie ses activités. Il propose des boissons rafraîchissantes et leur établissement se double d'un café, comme le prouvent les publicités diffusées dans les journaux locaux. Toutefois, en 1842, la ville rappelle aux cafetiers limonadiers qu'ils doivent assurer une provision permanente de glace.
En janvier 1858, la glacière est confiée à un nouveau bailleur, Claude Hébrard. Dans les archives, on retrouve une lettre où il demande l'autorisation de prélever de la glace dans les bassins du jardin de la nouvelle préfecture. Il donne une nouvelle impulsion à son établissement en obtenant l'autorisation de construire une salle de réunion qui restera à la propriété de la ville à l'expiration du bail.
Cette salle est de plus en plus utilisée pour des bals, spectacles ou concerts. Claude Hébrard se plaint toutefois en 1864 du déplacement du champ de foire au bas de la ville pour la construction de la caserne Aubry. Il perd de la clientèle et en dédommagement, il obtient une diminution de son loyer. Il s'attache à rendre plus attrayant son établissement par l'aménagement d'un jardin.
On peut lire dans le journal de l'Ain du 8 juin 1868 que, je cite, les tonnelles, le parterre, les ombrages, tout y est disposé avec le goût le plus parfait, de manière à satisfaire les exigences les plus difficiles. On ne saurait évidemment trouver un lieu plus agréable pour savourer une glace panachée pendant la saison d'été. Le contexte évolue car, sous le Second Empire, l'économie est plus dynamique. La gare est déjà présente. La préfecture est édifiée sous le haut de la ville et les manifestations se multiplient dans le square des Quinconces, tout proche.
Tout cela cesse avec la guerre de 1870. Puis, en 1873, la ville obtient la garnison d'un régiment d'infanterie dans un casernement agrandi. Camille Chambard succède à Claude Hébrard en décembre 1879. Il s'implique pleinement et il apporte des améliorations contre une réduction du loyer. La glacière devient de plus en plus un lieu de divertissement. Elle accueille aussi des réunions politiques, comme en août 1888 pour les élections législatives. Nous sommes à la belle époque et la ville perce l'avenue Alsace-Lorraine, rapidement bordée de beaux immeubles.
La presse nous apprend aussi que la glacière en haut de la rue de la République est toujours en activité. Nous quittons Gourcq pour aller visiter une autre glacière dans un site naturel et sauvage, le lac de Silan.
Juste après la guerre de 1870 que nous avons évoquée, un cafetier de Nantua obtient l'autorisation d'exploiter la glace de ce lac d'altitude. La glacière va prendre de l'importance lorsque le chemin de fer est prolongé de La Cluse à Bellegarde en 1882. Il longe le lac de Silan et il permet l'exportation massive de la glace vers Lyon et Paris, jusqu'à 20 à 30 wagons par jour durant les hivers favorables. Silan ne fournit pas de glace à la glacière de Bourg, du moins nous n'avons pas retrouvé d'écrit. La période est faste, mais une menace pointe à l'horizon.
Oui, la belle époque est aussi celle des progrès scientifiques. L'électricité permet de fabriquer de la glace avec des réfrigérateurs. Ceux-ci ne pénètrent pas encore dans les foyers, mais une publicité pour un coffre glacier apparaît dès 1899. La concurrence arrive.
Dans la ville de Bourg, des fabricants de glace s'installent pour le tout public. Une publicité dit que l'un d'eux fournira gracieusement de la glace, je cite, « aux malades indigents avec certificat du médecin ».
Notre glacière, à proximité des Quinconces, a un nouveau bailleur en 1898. Elle évolue de plus en plus comme un lieu de divertissement avec, sur la carte, des glaces ou des boissons rafraîchissantes. Pour cela, on peut même louer des chaises à dossier dans les jardins. On y donne des bals, des concerts, des revues musicales ou des manifestations pour des œuvres de bienfaisance. Par son animation permanente, on peut dire que c'est un haut lieu de la vie burgienne. En même temps que l'arrivée de l'électricité, apparaît à Bourg en 1899 un nouveau mot, celui de « restaurant ».
La glacière devient le casino de la glacière. Selon le dictionnaire historique de la langue française, le mot « casino » est emprunté à l'italien. Diminutif de « casa », il signifie « petite maison », »,« maison de campagne », même « maison de jeu » ou « maison de prostitution ». Le mot désigne ensuite, je cite, « un établissement de luxe comprenant une maison de jeu dans une station thermale ». Le mot désigne enfin une maison de plaisance, ce qui correspond mieux à notre ville.
Lorsque la fourniture de glace ne s'impose plus, la situation devient ambiguë. En effet, la ville loue un établissement commercial. Ce n'est pas normal dans un secteur marchand. La ville met fin au bail commercial en décembre 1910 et loue l'établissement à une association, la Jeunesse Laïque, dans un but bien précis. Voulez-vous nous lire un extrait du bail ?
Je cite « La propriété louée sera affectée à un cercle de patronage qui sera installé par cette société dans le but d'arracher l'enfant ou le jeune homme à l'oisiveté dangereuse de la rue, le recréer en l'instruisant, compléter son éducation morale, lui faire connaître ses devoirs de citoyen en lui faisant aimer la République. Nous sommes sous la Troisième République. La loi de la séparation des Églises et de l'État a été votée en décembre 1905 et les querelles ne sont pas apaisées. Ce texte du bail serait presque un catéchisme républicain. La Jeunesse Laïque reste dans ses locaux jusqu'en 1930.
Nous avons évoqué le mot « casino ». Il a malheureusement fait la une de l'actualité du côté de Saint-Étienne dans la Loire. Son histoire est un peu en liaison avec la nôtre. En effet, lorsque Geoffroy Guichard veut donner plus d'ampleur à son commerce d'épicerie en 1898, il s'installe dans une salle de spectacle dénommée « casino ». Fermé à cause de spectacles licencieux. Geoffroy Guichard reprend néanmoins ce mot pour créer sa marque de distributeur qu'il développe de plus en plus jusqu'à atteindre une dimension nationale.
Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une nouvelle chronique du passé. Nous remercions Thierry et Rémi qui ont préparé cette émission et Jimmy à la technique. Nous nous quittons avec Offenbach et le galop infernal d'Orphée aux Enfers.
Au revoir.
Au revoir.